Bonjour à toutes et à tous. Pardon de vous réveiller à l'heure de la sieste. La digestion. Merci à toutes et à tous d'être venus pour notre atelier sur la double matérialité au service du reporting et en particulier bien sûr dans le cadre de la CSRD, petit sujet qui arrive tout doucement et qui va préoccuper de plus en plus les entreprises, bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a prévu pour vous cet après-midi ? Un, de revenir sur le sujet de la double matérialité, finalement, quelle est un peu sa perspective, qu'est-ce que ça change dans les approches pour les démarches de RSE et dans le cadre de la CSRD, et puis d'avoir des retours d'expérience très concrets de la part d'entreprises qui se sont déjà essayées à cet exercice. Et à ce titre-là, je remercie bien évidemment Carole Lebouc, qui est responsable des dialogues avec les parties prenantes à la direction RSE du groupe Orange, Carlos Belém, qui est chef de projet transverse, direction développement durable du groupe CETEC, et Anaïs Segond, consultante en stratégie RSE chez BL Evolution, qui animera le temps d'échange sur ce retour d'expérience. Alors pourquoi on vous parle de ça cet après-midi ? BL Evolution, on est un cabinet de conseil en transition écologique, coopérative à mission bien sûr, et on intervient depuis presque 15 ans maintenant auprès des entreprises sur les sujets des RSE, climat, biodiversité, sobriété numérique et tous les sujets finalement transformateurs pour l'économie. Et donc quelques mots que l'on voulait vous partager en introduction de cet atelier. Le principe de la double matérialité a été concrétisé, entériné dans le cadre des travaux préparatoires à la directive sur la CSRD, donc j'imagine que vous avez pu suivre. La CSRD, elle vient remplacer la NFRD, ce qui avait fait en France, ce qui avait amené à la mise en place des DPEF qui ont occupé pendant près de 10 ans les directions développement durable, reporting, etc. dans les entreprises. Et donc là, l'Europe a voulu renouveler cet exercice. Et donc, il y a tout un nombre de textes qui sont, pour certains, déjà adoptés, pour d'autres, en cours de construction. J'imagine que vous avez passé également des nuits blanches à regarder tous ces textes relativement fournis quand ils sont en consultation. Si vous n'avez pas tout lu, n'hésitez pas à nous appeler. On vous fera des synthèses avec grand plaisir. Donc, le sujet maintenant, c'est que ce n'est pas demain ou après-demain, c'est aujourd'hui que ça arrive. Et donc, l'enjeu est bien de se préparer. Quels étaient les objectifs annoncés de la CSRD, ceux qui étaient présentés? Le premier, de toucher plus d'entreprises. On parle d'à peu près 11 000 entreprises qui étaient concernées par l'ancien dispositif, à plus de 50 000 d'après les estimations qui sont faites. Donc on a un élargissement finalement des entreprises qui seront soumises. Ça passe par les seuils, etc. etc. Deuxième sujet était l'articulation de différentes réglementations européennes. Donc il y a la SFDR, il y a le devoir de vigilance, la CS3D, dont j'espère que vous avez commencé à vous préoccuper également. La taxonomie européenne, la directive sur la protection des lanceurs d'alerte, etc. etc. Donc il y a aussi cet exercice qui est plutôt intéressant, je crois, de convergence et de mise en cohérence de différents textes européens sur ces questions. Il y avait un enjeu d'uniformisation et de qualité des standards de reporting. Ça, c'est important, puisqu'on l'a vu ces dernières années, quand on n'arrive pas à comparer des reportings, c'est difficile, par exemple, pour un investisseur de se dire, finalement, qui est plus vert que le voisin. Si on a des données qui ne sont pas les mêmes, pas calculées de la même manière, ce n'est pas complètement évident pour ces parties prenantes pour comprendre qui fait quoi. Donc, il y a un sujet d'uniformisation, et donc ça, c'est aussi un point clé qui explique pourquoi est-ce que le corpus normatif est important, puisque du coup, on veut des choses qui soient après comparables. Et puis enfin, un dernier objectif qui était aussi annoncé, c'était l'obligation d'audit dans l'ensemble des pays. Ce n'était pas forcément le cas. En France, on est habitué, hein, puisqu'on a des OTI depuis 2014, mais ce n'était pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc là aussi, ça va élargir l'approche. Donc le contenu général, il peut se présenter sous ce petit schéma de synthèse. Différents ESRS, acronymes que je vous invite à apprendre à prononcer correctement pour briller en société sans se tromper, qui vont concerner tout un tas de sujets, des sujets environnement, bien sûr, changement climatique, biodiversité, pollution, ressources, eau, etc. Les sujets sociaux, sur les effectifs propres, sur la chaîne de valeur. Donc là, on va retrouver les liens avec, évidemment, le devoir de vigilance, les communautés, les clients et les utilisateurs finaux. Et puis les enjeux de gouvernance sur comment est-ce qu'on va conduire les affaires dans l'entreprise. Donc tout ça se décline dans différents documents qui expliquent comment faire un reporting. Et donc ce qui est fondamental, c'est que la construction du reporting pour les entreprises va se faire sur un principe de matérialité, puisque vous avez un certain nombre de ces normes qui sont obligatoires pour tout le monde, et vous en avez certaines qui vont dépendre de la matérialité du sujet. Donc l'exercice de double matérialité, il est extrêmement structurant, c'est la première étape à mener pour ensuite pouvoir faire son reporting, pour pouvoir justifier à son auditeur et plus largement à ses parties prenantes, pourquoi est-ce qu'on parle ou pas de biodiversité, pourquoi est-ce qu'on parle ou pas de tel sujet, parce que le sujet est matériel ou pas. Donc, l'approche à double matérialité, c'est la suivante. Hein. On avait des matrices de matérialité depuis une petite dizaine d'années dans les entreprises. Si vous avez fait un petit benchmark, vous avez vu que chacun avait inventé des axes différents du voisin. Un coup, c'était les parties prenantes internes versus les parties prenantes externes. Un coup, c'était l'importance pour les parties prenantes, l'importance pour l'entreprise. Un coup, c'était l'impact business, etc. Donc, on avait des approches de matérialité qui étaient assez diversifiées. Donc là, on voit cet objectif d'uniformisation des pratiques de reporting qui devient concret, puisque du coup, cette fois, on a une définition très claire de la double matérialité. C'est à la fois la perspective d'impact et la perspective financière, c'est-à-dire en quoi les enjeux de transition écologique, ESG, vont impacter la performance et le fonctionnement de l'entreprise, donc l'impact, entre guillemets, de l'extérieur sur l'entreprise, mais également l'impact de l'entreprise sur l'extérieur, en quoi l'entreprise a des impacts sur l'environnement, sur le social, la gouvernance, etc. Donc ça, c'est intéressant et ça sort aussi d'une ambiguïté, puisqu'on le voyait hein, dans certains reportings, le changement climatique, certains le traitaient sous l'aspect des risques. Il y a le changement climatique, ça va impacter ma chaîne de production, mes usines, etc. Et d'autres traitaient le changement climatique comme étant un impact, mes émissions de gaz à effet de serre. Il n'y avait pas de juge de paix pour dire qui avait raison dans l'approche qui était prise sur la question du changement climatique. Et donc là, c'est clairement dit, bah, il faut les deux. C'est plutôt rassurant si on partage une vision de soutenabilité forte, puisqu'il faut bien se préoccuper à la fois des impacts qu'on peut avoir sur l'environnement et la société, mais aussi de se préoccuper de comment on crée de la valeur demain dans un monde qui se transforme. Donc on est bien sur cette double approche de matérialité. Donc ça, c'est aussi un exercice qui est très nouveau pour les entreprises. Alors pour terminer, quelques points de réflexion qu'on vous partage et pour ouvrir le débat de la table ronde. Ça permet d'aborder, sans le croire, les impacts de son activité sous un nouvel angle, puisque du coup il y a cette double matérialité que j'évoquais tout à l'heure. Donc on sort complètement de l'ambiguïté de finalement les impacts de qui sur qui. Là c'est très clair, on regarde les deux, on sépare les deux, et donc ça permet aussi d'avoir un discours extrêmement clair sur la manière dont on gère les risques d'un côté et on gère ses impacts de l'autre. Donc pour tous les investisseurs qui regardaient ces sujets là ça va être plus clair, et pour l'ensemble des parties prenantes également. Je crois que c'est intéressant aussi parce que ça permet de se préparer. On parle d'uniformisation des normes au niveau européen. On le voit, les textes sont aussi compatibles avec tout un tas d'autres dispositifs. Donc bien se préparer à la CSRD, c'est aussi potentiellement bien se préparer à d'autres référentiels ou engagements que vous pouvez prendre. On pense à Science-Based Target pour la nature ou pour le climat. On pense à la TNFD, à la TCFD, à tout un tas de dispositifs sur lesquels vous pouvez prendre des engagements qui sont encore plus ambitieux, mais dont les fondamentaux sont globalement alignés à la CSRD. Donc c'est pour ça que nous, on vous recommande bien sûr de vous en saisir très vite de cette CSRD pour être prêt le jour où l'entreprise s'étoile un cran plus loin et se positionner sur ces sujets-là. Et puis l'idée, la dernière qu'on voulait vous partager, c'était que il faut sortir du sujet de regarder la CSRD comme une RSE reporting, pour l'ancrer dans l'RSE stratégique, parce qu'évidemment, quelle horreur le reporting, c'est franchement affreux, s'il n'y a pas de but. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, en tout cas, nous, c'est le message qu'on souhaite faire passer, c'est comme ça qu'on essaie de le travailler. Le reporting, il est au service de la stratégie de l'entreprise, de sa durabilité, à la fois dans le temps en gérant les risques, et à la fois vis-à-vis de la société, en pouvant limiter les impacts, maximiser les contributions positives, etc. Et donc, on pense vraiment que cet exercice de double matérialité et l'exercice de la CSRD plus largement, si on le voit comme un exercice de reporting en plus, c'est franchement l'enfer. Donc ça, on le partage complètement. Et donc, il faut arriver à l'aborder et convaincre les directions que c'est bien un outil qui permet de repenser sa stratégie d'entreprise, sa résilience à moyen long terme. Et la CSRD aborde différents aspects, l'évaluation des risques, puisqu'on va traiter tous les aspects ESG qui sont aujourd'hui cruciaux dans le bon fonctionnement à moyen terme des entreprises. Comment on priorise nos sujets ? On ne peut pas gérer tous les combats, et donc là, on a un outil qui permet aussi de prioriser ceux sur lesquels on est complètement attendu. Ça permet aussi de rendre compte à ces parties prenantes. On l'oublie souvent, le reporting, à la base, c'était de se dire on fait de la transparence et on explique à nos parties prenantes, clients, employés, fournisseurs, investisseurs, etc., qu'est-ce que l'on fait sur les sujets clés de société et d'environnement. Bon, finalement, c'est bien beau tout ça, je crois. C'est même très beau, mais alors Anaïs, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, en effet, passons directement au partage d'expériences de nos deux interlocuteurs qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, Carole Lebouc, responsable de dialogue partie prenante pardon, chez Orange, et Carlos Bellem, chef de projet transverse développement durable chez CETEC. Alors, vous avez tous les deux mené un exercice de double matérialité. Vous allez nous expliquer un petit peu les étapes, les tenants, aboutissants et le lien avec le reporting. Carole, vous, chez Orange, vous avez déjà un reporting, vous avez déjà une DPEF, vous aviez aussi déjà une matérialité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous avez mené ce projet, quels ont été les défis que vous avez rencontrés ?
Merci Anaïs, bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez ? Attendez, je vais adapter. Alors effectivement, on avait beaucoup de choses chez Orange. Hein. On publiait déjà, bien sûr, une DPEF, une matérialité dite simple. Maintenant, on précise. La première chose que j'ai fait il y a un an, moi, c'est d'écrire une note sur la double matérialité. Quand les documents sont arrivés, les publications de la CSRD et notamment celle de l'EFRAG, il a fallu faire une lecture un petit peu précise et d'écrire une note qu'on a diffusée en interne aux grandes directions, pour expliquer le concept que vous avez vu à l'écran, qu'est-ce qu'une double matérialité, au-delà, bien sûr, dans l'ensemble de la CSRD, pour prévenir tout le monde. En fait. Donc c'était aussi pour ne pas rester dans un petit cercle d'initiés, ça c'est un peu notre vécu, et de partager, on va dire, un petit peu au plus grand nombre dans les directions qui allaient être concernées par le travail, ce qui allait arriver. Et après, on s'est emparé du sujet. Chez Orange, on a une spécificité, c'est qu'on fait des dialogues parties prenantes depuis 2008. On a une grande expérience sur ce domaine. Plus de 70 dialogues ont été lancés régulièrement sur tous les sujets de RSE. Donc ce que j'ai fait, parce que je suis en charge du projet de la double matérialité, lorsqu'on regarde tous les enjeux et les topics, les subtopics, les subsubtopics qui sont... Ça fait sourire mon voisin, mais c'est vrai que quand on s'attelle aux documents, on voit que c'est très hiérarchisé. Donc, on a fait des tables de correspondance entre ce qu'on avait déjà, nous, travaillé dans les dialogues parties prenantes, donc dialogues parties prenantes avec les internes et les externes, et on a commencé à croiser tous les enjeux qui étaient demandés dans la CSRD et ceux qu'on connaissait, qu'on avait déjà travaillé en interne. Alors, l'avantage de ce travail, c'est que ça nous a fait prendre aussi conscience qu'on avait des trous dans la raquette, qu'il y avait des enjeux qu'on n'avait jamais travaillés, ou peu. Et pour cause, on change de paradigme. Hein. C'est la CSRD qui vous impose des sujets. Vous les avez vus, pollution, biodiversité, l'eau, par exemple. Un sujet que, non pas qu'on ne suive pas ce qu'on consomme en eau, mais clairement, on n'avait pas traité ce sujet dans les dialogues parties prenantes. Voilà, donc on a fait ce gros travail de travailler tous nos sujets. Et parallèlement à ça, on a fait un kick-off, double matérialité. Donc on a invité des personnes en interne à un kick-off sur la double matérialité, que ce soit des directions ou des représentants des directions RSE. Donc ils étaient très surpris. Ça pose hein, quand vous dites kick-off double matérialité. J'ai eu beaucoup de coups de fil, mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. Donc à chaque fois, on a réexpliqué. C'était vraiment l'idée que... Ok, on va vous réexpliquer le principe, et même si nous, on n'avait pas défini la méthodo, hein, on a avancé sur cette méthodo, on les a associés quand même, et on a fait des itérations, en fait, dans ce comité stratégique pour leur présenter d'abord la méthodo, ensuite les enjeux, et bien sûr, avoir leur feedback. Et petit à petit, on a traité avec des experts, bien sûr, dans les directions, pour travailler nos fameux enjeux, parce que la finalité du bout, c'est d'avoir un scoring sur chaque enjeu. Donc, il faut pouvoir scorer. Et c'est vrai que dans nos dialogues, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait à peu près 90% de scoring déjà fait dans les dialogues parties prenantes. Donc pour nous, c'était du pain béni. On part de ce scoring, on se dit OK, on va partir de ça et on va monter notre scoring à partir de ça. Pas que de ça, hein, parce que évidemment, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas marqué que les FRAG ne dit pas vous devez absolument associer vos parties prenantes, mais c'est quand même mieux. Et je pense que c'est mieux parce que ça permet d'avoir un œil interne-externe sur le sujet. Et c'est bien quand on va ouvrir les débats avec vos experts internes de dire oui, mais attention, parce que les parties prenantes externes, elles disent ça. Et donc, ça permet un petit peu d'ajuster et d'être moins dans le côté passionnel du sujet de la personne qui doit le défendre. Voilà, donc on a aligné tous nos enjeux. On a fait beaucoup de workshops sur la partie environnementale, S et G. On a découpé notre réflexion selon la CSRD. Plus la partie double matérialité, la partie impact financière. Et on arrive évidemment à un scoring au final. Voilà, donc j'ai envie de dire, nous on est parti de notre existant et de ce qu'on savait le mieux maîtriser en termes de scoring sur les enjeux. Et peut-être qu'une autre entreprise partira autrement, fera autrement. Voilà, c'était un peu le témoignage que je voulais donner, en tout cas sur cette première question.
Et tu me fais ma transition, puisque en effet, donc, chez Orange, il y avait déjà beaucoup de travail et de matière, hein, comme vous l'avez compris, un petit peu différent chez CETEC, puisqu'il n'y avait pas encore de rapport, il n'y a pas encore de rapport, et donc des enjeux un petit peu différents pour travailler sur cet exercice.
Yes. Alors, bonjour, merci à tout le monde qui est par terre et de vous. Nous écouter. Alors effectivement, donc CETEC, on est un bureau d'études d'ingénierie, donc on intervient sur plusieurs sujets à plusieurs niveaux. On est 3600, donc on pourrait dire grosse entreprise, mais pas tant que ça, parce qu'on n'était pas soumis à la DPEF, on n'était pas soumis aux droits de vigilance, on n'était pas soumis à des scorings. En plus de ça, on a uniquement de l'actionnariat interne, donc on n'a pas des investisseurs externes qui nous mettent la pression avec des ratings, des choses comme ça, donc relativement simple, mais du coup on passe aussi de 0 à 100 avec la CSRD parce que on sera soumis à cette directive très prochainement. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous de notre côté? Déjà il faut savoir qu'en fait dans le groupe CETEC il y a plusieurs filiales, il y a près d'une quarantaine de filiales, elles sont toutes indépendantes et jusqu'à il y a à peu près 3 ans on n'avait pas de direction de développement durable au niveau du groupe. Il y avait dans les filiales, il y avait des actions développement durable ou des fois même des démarches RSE qui étaient en place, mais il n'y avait rien de formalisé, en tout cas au niveau du groupe. Donc on a créé la direction développement durable il y a 3 ans, et une première action qu'on avait faite, et on était déjà avec BL à l'époque, c'était de faire la simple matérialité. On ne parlait pas encore de la double, hein, donc c'était fin 2020-2021. On a fait la simple matérialité parce qu'on s'est dit que c'est un bon instrument pour justement prendre la mesure en fait, de où on en est dans les différentes filiales et qu'est-ce qu'on va mettre en place. C'était la base pour notre feuille de route au niveau groupe pour la démarche RSE. Et voilà, donc pour la simple modalité, on avait fait des consultations, des entretiens avec des DG, avec des groupes d'actionnaires du coup en interne, avec des groupes de ce qu'ils avaient appelé à l'époque des jeunes de moins de 30 ans. Pas qu'on ne soit pas tous jeunes aussi. Avec les RH aussi, avec les métiers RH, ça nous a paru important dès la première consultation qu'on a fait, et on a fait aussi des entretiens avec des clients et des partenaires dès cette simple matérialité. Et du coup, fin 2022, quand les textes de la CSRD commençaient à apparaître et qui parlaient de double matérialité, on s'est dit on va prendre ça en main et on va refaire l'exercice un peu pour deux raisons. La première, c'est que on voyait dans les discussions avec les dirigeants, les collègues, juste tout ce qu'on voit aussi autour de nous, que les perceptions des gens, des parties prenantes, du coup, des enjeux de durabilité avaient déjà changé en 2 ans. Et du coup, on a voulu refaire cet exercice, même si le délai était court entre 2021 et maintenant. On a quand même voulu refaire l'exercice pour mesurer comment ça avait changé et dans quelle direction ça avait changé. Et surtout parce qu'il y avait la dimension de la matérialité d'impact qu'on n'avait pas dans la simple matérialité, et ça nous a paru important aussi pour mieux structurer notre démarche RSE. Donc on a refait des consultations à nouveau, on a fait des enquêtes salariées à nouveau, donc on a eu un tiers des participations, c'était plutôt pas mal. On a refait des entretiens avec des DG, et on a fait cette fois-ci des entretiens avec des experts externes au groupe CETEC, et qui connaissent un peu les sujets, que ce soit RH ou les sujets impact environnementaux, etc., liés à l'ingénierie, mais qui sont externes à CETEC, donc qui n'avaient pas de vision concrète de ce que CETEC spécifiquement faisait, mais de l'ingénierie. Et c'est une recommandation, si je ne me trompe pas, de la norme ESRS 1. Et on l'a prise avec BL et on a fait ces entretiens pour compléter un peu cette vision de la double matérialité. Donc on n'a pas encore tout à fait fini l'exercice. On présente la matrice vendredi avec Anaïs, à notre équipe projet. Et ensuite, on continue le process du reporting qui pour nous va être la première fois. Hein. Comme je disais, on n'était pas soumis, donc c'est la première fois qu'on fait l'exercice et on fait un exercice à blanc pour la première fois.
Donc on le comprend, il y a un besoin d'y aller progressivement, que ce soit si on a déjà des exercices existants ou si on part de zéro. Et donc un besoin aussi de faire en sorte que les équipes en interne elles soient mobilisées sur ce travail. Et donc un des objectifs, c'est progressivement faire en sorte que vous puissiez embarquer en interne et expliquer les différentes étapes, les objectifs de cet exercice-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez fait chez CETEC ?
Yes. Alors, vous imaginez, ça n'a pas été rose. Hein. Il y avait des difficultés, des freins. Mais on a quand même deux forces. La première, je l'avais dit, l'actionnariat, le fait qu'on n'a pas d'actionnariat externe. Du coup, ça simplifie quand même un peu l'exercice. Le deuxième, c'est qu'en fait, on a notre président du groupe CETEC qui était déjà convaincu du sujet et embarqué dans l'exercice avant même qu'on commence à faire la double matérialité. Et ça, pour le coup, ça change beaucoup parce que dans tout projet, de gros projet d'entreprise, de projet de transformation, ils font un sponsor. On a ce sponsor, c'est lui qui pilote directement la direction de développement durable du groupe. Donc, ça nous aide beaucoup. Mais on a quand même un peu des difficultés. Donc, la première que je pourrais dire, c'est que c'était, comme je disais, la première fois. La CSRD, elle a des termes qui font un peu peur. Ne serait-ce que le simple mot « matérialité », c'est quelque chose qu'on passe beaucoup de temps à expliquer en interne ce que ça veut dire. Vous avez sûrement vu que ça a été traduit d'ailleurs dans les textes en français par « importance ». Je ne suis pas sûr que ça nous aide vraiment, parce que finalement la matrice de double importance, comment expliquer qu'un enjeu qu'on traite déjà et que du coup il apparaît en peu d'importance, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais qu'il est quand même, il est moins matériel qu'un autre enjeu qu'on ne traite pas encore. Donc bon, bref, donc c'est tout cet exercice-là, c'est compliqué la première fois qu'on fait, mais c'est quand même important. Nous, on a, dans l'équipe, on a un concept qu'on aime bien, qu'on a appelé ça ACV, pas l'analyse de cycle de vie, mais anticiper, co-construire et vulgariser, c'est un peu le triptyque pour nous qui marche bien quand on travaille sur ce genre de projet. Et on passe beaucoup de temps justement avec les parties prenantes, pour expliquer, internes en tout cas, pour expliquer ce que c'est. Donc première difficulté, la deuxième, c'était d'intégrer des dimensions différentes, et qu'aujourd'hui on n'a pas, il y a beaucoup d'entreprises, surtout les grands groupes, qui ont déjà une intégration entre la RSE et la finance. Ils ont un département de finance durable par exemple, des choses comme ça, ou une intégration RSE RH. Donc c'était pas le cas chez nous. Donc c'est une direction qui est récente, la direction groupe aussi RH est récente, la direction financière elle est un peu plus ancienne, mais elle vivait aussi un peu dans son coin. Donc il faut intégrer tout ça, tous ces différents métiers. Aussi le juridique, aussi le fait qu'il y a de l'international, parce qu'on est présent en dehors de l'Europe. Et ça, pour les entreprises qui sont en dehors de l'Europe, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre aussi. Donc il faut intégrer toutes ces dimensions-là. Et la troisième difficulté, c'est la chaîne de valeur. Donc le fait d'intégrer la chaîne de valeur amont et aval, c'est un des points forts de la CSRD. Nous, on est convaincus. Mais c'est aussi pour nous une des plus grandes difficultés parce qu'en fait, nous, bureau d'études d'ingénierie, on est un petit maillon, entre guillemets, dans une chaîne très grande. On n'est pas constructeur, on n'est pas donneur d'ordre dans la plupart des cas, on n'est pas fabricant de matériaux de construction, des choses comme ça, mais on est quand même prescripteur d'études, par exemple. Mais on dépend énormément de nos fournisseurs, de nos prestataires, de nos clients, des partenaires avec qui on travaille, etc. Donc obtenir des informations, parce que la CSRD, ça tourne autour de ça, hein, c'est obtenir des données pour les mettre dans les reportings, et obtenir ces données de manière structurée et tous les ans, et de manière que ce soit auditable et compréhensible. Donc faire cet exercice, c'est pas forcément simple. Donc, ce qu'on a mis en place pour cette première année, du coup, pour lancer le projet d'intégration de la CSRD et pour faire, du coup, l'exercice de la double matérialité, c'est qu'on a mis en place une équipe projet qu'on a voulu très diverse, en fait. Donc, on a intégré deux dirigeants de société. Il y a deux personnes plutôt niveau ingénieur, donc plutôt niveau production, qui sont plus au niveau des études et qui, par ailleurs, sont des personnes un peu militantes aussi. Donc, ça aide dans les discussions à avoir des avis un peu qui tranchent un peu. Il y a deux personnes qui participent parce qu'on a un groupe de travail en parallèle sur la stratégie climat et biodiversité qui définit notre trajectoire et les objectifs en termes d'émissions de CO2 et d'impact sur la biodiversité. Donc il y a deux personnes qui sont dans ces groupes de travail-là qui sont aussi dans l'équipe projet. Il y a une personne du juridique, du niveau corporate, il y a une personne du contrôle de gestion, donc pour le lien avec la finance, deux personnes de la communication, et surtout, et pour nous c'était vraiment très important, trois personnes RH, des métiers RH, donc la directrice niveau groupe et deux directrices niveau filiale, pour justement avoir cette vision la plus large possible. Donc pour la première année, on n'a pas tout à fait intégré l'international encore, parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture du reporting, que dans plusieurs pays, il n'y en a pas. Mais c'était le premier pas, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour lancer l'exercice et faire cet exercice à blanc en 2023.
Et du coup, chez Orange, pareil, hein, besoin aussi de faire en sorte que le projet de double matérialité soit approprié. Tu me disais que tu retenais qu'il fallait aussi collaborer avec pédagogie et également savoir arbitrer.
Voilà. On est en pleine Coupe du monde de rugby, donc arbitrer, vous voyez ce que c'est. Hein. À un moment donné, quand l'arbitre est sif, on arrête. Oui, parce que chez Orange, on a une autre dimension, entre guillemets, c'est qu'on a énormément d'experts. Donc des experts très pointus sur beaucoup de sujets, experts sur les déchets, sur CDP. Donc toutes ces personnes, à un moment donné, on va traiter quand même du sujet environnement avec nos fameux ESRS, etc. Il faut tirer le fil des subtopiques, etc. Donc ça a donné lieu à beaucoup d'échanges costauds, hein, je dois avouer, avec des gens qui sont dans leur expertise et qui évidemment connaissent très bien et vont défendre leur sujet. Donc quand je dis ils vont défendre leur sujet, c'est pour rebondir sur l'histoire de l'importance, parce qu'en fait finalement c'est pas un exercice pour dire que des points sont plus importants que d'autres, surtout pas. C'est un exercice pour dire voilà les points sur lesquels il y a des impacts sur les externalités et des points qui vont générer des flux financiers à court, moyen, long terme. Et donc, si le point est au milieu de terrain, bah, il est peut-être tranquille, mais il est peut-être bien couvert aujourd'hui. Donc, tout va bien. C'est pas qu'il n'est pas important, c'est qu'il est bien situé. Avoir un point en haut à droite, je ne sais pas si c'est super hein, pour ceux qui portent le point, ceux qui ont découvert. Alors, tu vas voir, vendredi, tu vas présenter ta matrice de double matérialité. C'est un grand moment. Parce que tout d'un coup, on révèle le résultat de ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'il y a des frictions parce qu'en fait, on met sur une même matrice des sujets E, S, G. Donc, alors, pourquoi le point pollution est plus bas que le point santé, sécurité au travail ? Très sincèrement, à un moment donné, il y a une limite dans l'explication qu'on a. Nous, on le sait parce qu'on a fait évidemment une méthodologie très précise. On a associé la méthodologie de BL. Donc on a tout couvert, on a tout documenté et on a redocumenté et on a réexpliqué. Mais c'est vrai que c'est pas évident en fait à expliquer. Et même après X sessions, et il y a aussi un petit conseil, enfin je sais pas si on peut donner comme ça des petites choses. Nous, on avait essayé de travailler les matérialités séparées, impact et puis la matérialité financière, en se disant finalement est-ce que ce sont les mêmes interlocuteurs et puis la même logique. Et en fait, on s'est heurté à une logique de compréhension de la matrice. Donc très vite, on a réintégré les résultats de la matérialité financière dans celle d'impact pour que les gens comprennent où le point allait se situer dans les scorings et pourquoi c'était plus important sur les activités du groupe, d'une certaine manière, versus ce que ça pouvait impacter en termes d'externalité, un nombre de personnes, etc. Et là, on a déverrouillé quelque chose parce que les gens ont compris. Donc en fait, voilà, je pense qu'il faut que les gens puissent visualiser ce que ça donne au final, pourquoi ils sont situés à tel ou tel endroit. Ils ont besoin d'explications. Bien, à un moment donné, il faut arbitrer. Donc, ça y est, on a poussé en mêlée, tout le monde s'y est mis, mais c'est bon. Et c'est vraiment important d'avoir donc des arbitres. Et ça, chez nous aussi, il y avait les experts, il y avait les directeurs. Puis y a, à un moment donné, y a un arbitre un peu au-dessus de la mêlée et qui dit, OK, c'est bon, là, on va figer la copie. Elle n'est peut-être pas optimale, mais en tout cas, elle est. Avec une méthode associée qu'on sait expliquer, qui nous sera demandée lors des audits. Et on ne nous reprochera jamais d'avoir arbitré, d'avoir fait des choix. On nous reprocherait de ne pas expliquer les choses, d'accord ? Et ça, c'est important. C'est qu'à un moment donné... on a fait notre exercice comme tout le monde, c'était compliqué, il fallait associer plein de, de vision, des choses qu'on avait, des choses qu'on n'avait pas. Et puis on était très contents finalement de sortir une matrice de double matérialité avec nos points, parce que derrière on tire le fil aussi du gap analysis et donc du reporting qui va suivre. Donc ça c'est important, enfin, c'est la prochaine question, donc je ne vais pas parler maintenant de ça. Mais voilà, donc il y a vraiment un instant T où les discussions ont eu lieu, on a pris en compte, ok, on arrête le débat et on part sur ça. Et puis on verra comment ça évoluera, parce qu'en fait on se rend compte que cet exercice, il va effectivement évoluer. Là, ce qu'on est en train de faire, nous, on est en train de travailler la fameuse chaîne de valeur. Ça aussi, on se retrouve face à l'exercice, et c'est vrai que c'est pas évident, parce que décliner cette double matérialité sur la chaîne de valeur, comme c'est demandé dans la CSRD, l'EFRAG a donc publié récemment une publication beaucoup plus précise sur ce qu'ils attendent. Faut qu'on s'empare du sujet, qu'on arrive à faire cet exercice. Donc ils en rajoutent une petite brique à chaque fois. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'EFRAG ici, mais à chaque fois on reprend une petite couche de. Alors c'est bien parce qu'ils précisent. Hein. On sent bien que l'exercice, eux aussi, ils le précisent. Hein. Donc ça c'est pas mal. On a encore du boulot, en gros. Hein. Le début de l'histoire, la matrice, c'est que le début de l'histoire, et on a encore beaucoup de travail pour décliner nos zéros, bien sûr, décliner les impacts positifs, négatifs, opportunités et risques sur chaque point qu'on a donc situé sur la matrice.
Oui, donc justement, vous êtes en train de présenter vous allez valider votre matrice de double matérialité. Notre conférence, elle s'appelle « De la double matérialité au reporting
».
Quelles sont les prochaines étapes? Et même d'ailleurs, au-delà du reporting, en quoi est-ce que l'exercice de double matérialité peut être utile dans vos démarches, dans vos stratégies en interne?
Oui, alors la direction financière, donc nous, on a déjà une patte financière, finance durable, hein. Donc ils attendaient évidemment la matérialité des points pour produire le gap analysis et donc documenter les data points qui sont derrière chaque point. Alors ça, c'est important de le comprendre. Hein, ça veut dire qu'on va devoir reporter si les points sont matériels sur ces points-là. Donc parallèlement à ça, on a lancé le travail de gap analysis chez Orange. Ça ne nécessitait pas d'attendre que la matérialité sorte, mais à un moment donné, effectivement, il fallait qu'ils aient les points. Et ils les ont aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que la matrice est figée et qu'on est en train de décliner chaque point avec des fiches spécifiques, etc., on a présenté ce projet, ce résultat à la direction stratégie, et on se rend compte qu'on va commencer à challenger en fait les directions. Et ça, c'est intéressant. Le travail de double matérialité suffit à lui-même quelque part, mais maintenant on est en train de raccorder les directions qui nous disent alors qu'est-ce que ça donne? Nous, on a déjà sorti notre plan stratégique. Ça ne va pas évidemment le transfigurer, mais quand même, il va falloir faire attention à ce qu'on a quand même raconté dans la double matérialité. Il faut quand même que ce soit raccord par rapport à des points qui sont à risque. Par rapport à, on a quand même un point qui s'appelle adaptation au changement climatique. C'est des choses intéressantes, ça, quand on fait de la stratégie. Et aussi sur le modèle d'affaires. Et bingo, on en rajoute une couche, le modèle d'affaires est en train de nous dire, qu'est-ce qu'on met dans la... comment on raccorde les deux? Donc, alors là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce n'est pas qu'un exercice pour un exercice. Déjà, c'était intéressant de faire l'exercice, de rassembler des gens qui ne se parlaient pas forcément, de rassembler une finance durable très, très fortement en maillon central entre la RSE et puis la direction finance. Et puis, au-delà de ça, de mettre tout le monde autour de cette matrice de double matérialité pour dire, cet élément-là, il vient impacter telle action de la stratégie, on va peut-être regarder notre modèle d'affaires, il est comme ça, mais il va peut-être falloir l'enrichir des points matériels et pouvoir le traduire dans le modèle d'affaires. Donc ça, on tire le fil de beaucoup de choses qu'on n'avait peut-être pas perçues au départ, qu'on a pris comme un exercice obligatoire, en se disant, on a un an d'avance, on va pouvoir le faire... tranquillou, et puis comme ça on verra un petit peu comment ça marche, mais on se rend compte qu'aujourd'hui ça permet de structurer beaucoup de choses, beaucoup de visions, de discours autour de ces enjeux de durabilité, chose qu'on n'avait pas forcément avant, hein. Il y avait une écriture, il y avait une DPEF, il y avait tout ça, mais là tout le monde s'est intéressé réellement à tous ces sujets. Voilà.
Alors, donc, vous avez compris, nous, premier exercice. Donc, ce qu'on va faire très concrètement, là, dès qu'on présente la matrice, c'est la deuxième fois qu'on présente, en fait. On a retravaillé, on représente l'équipe projet. Ce qu'on va faire, donc, on est très, très ambitieux. On compte finir le rapport On vient de, de faire la matrice. Hein. On compte finir le rapport d'ici fin novembre pour le présenter à la direction en décembre. On sait que c'est ambitieux, mais en fait, pourquoi on veut faire comme ça ? C'est pour se rendre compte très rapidement de quelles sont les informations qu'on arrive à obtenir, parce qu'on les a déjà, parce qu'on les collectait déjà, des informations. Il y a beaucoup d'informations en France, au niveau social par exemple, qu'on collectait déjà, qui étaient déjà obligatoires. Donc ça, il y a une bonne partie qu'on aura. Il y a beaucoup d'informations qu'on n'aura pas sur les impacts des projets, notamment sur la partie environnement. Mais c'est pour se rendre compte de tous ces trous-là et pouvoir travailler sur ces trous dès l'année prochaine. Et la deuxième chose qu'on veut travailler, c'est pour ça qu'on voulait faire le rapport rapidement aussi, c'était de travailler sur un process. Parce que du coup, vous avez compris, on n'a pas de process de reporting, on n'a pas de culture même de reporting. Donc il faut tout créer et travailler sur ces process, ça va prendre un peu de temps. Donc on a la direction qualité aussi qui est associée du coup à notre direction de développement durable. Donc on travaille ensemble pour créer du coup ces process. Et je voulais juste finir sur un truc. En fait, pour nous, l'exercice de la double matérialité et la CSRD de manière générale, donc nous, on avait déjà commencé à travailler en fait en parallèle de tout ça sur un plan de transformation du modèle d'affaires. Donc c'est quelque chose qui était demandé par nos salariés, qui était aussi, il y avait plusieurs dirigeants en interne qui étaient convaincus qu'il fallait le faire. Donc on avait déjà commencé à faire cet exercice. Et pour nous, la CSRD, c'est un outil pour formaliser ça. Pour formaliser ça, pour mettre dans des mots qui vont être compréhensibles et dans une structure qui peut être comparable avec nos concurrents, avec d'autres personnes. Dans un rapport, du coup, ça tombe au bon moment, entre guillemets, pour nous. Donc nous, on ne le vit pas trop comme une contrainte, mais c'est une opportunité pour nous, quoi, en tout cas. Donc voilà, donc on essaye de le prendre positivement. Mais c'est aussi du fait qu'on n'a jamais fait de reporting, donc on ne se rend peut-être pas compte de la lourdeur intégrale de l'exercice, quoi.
Mais t'as raison, hein, c'est une vraie opportunité de cadrer les éléments et de tous bosser dans la même direction. Mais ça, c'est vrai. D'avoir un cadre, on n'est pas tous en train de bosser dans notre coin. Là, ça nous a rassemblés autour des enjeux. Non, c'est vrai.
Donc, une opportunité aussi. Bon, vous avez compris, je pense que c'est un petit peu long comme projet. Ça prend un peu de temps, mais c'est un projet qui permet d'embarquer en interne et au-delà donc, du réglementaire aussi, d'arriver à prendre du recul sur sa démarche, identifier des nouvelles priorités, identifier et prioriser sa démarche, confronter sa démarche de développement durable et même, comme le disait Sylvain aussi en introduction, son business model. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Je vous propose qu'on passe un petit peu de temps sur les questions-réponses. Il nous reste 5 minutes. On a un petit peu dépassé. Est-ce qu'il y a des questions pour nos deux intervenants ?
Oui, alors effectivement, on a redistribué nos sous-points, nous, sur la façon de présenter les enjeux dans notre dernière DPEF, donc qui ne correspond pas à ESG, ce qui correspondait davantage aux experts et aux techs, enfin, des experts internes. Et ensuite, on a fait des ateliers qui correspondaient effectivement plutôt aux sujets qu'ils allaient porter et aux sous-sujets qu'ils allaient porter. Et en fait, effectivement, on a représenté la méthodo, les scorings associés, en expliquant bien comment le score avait été monté, en leur ouvrant aussi la porte. Parce que moi, j'avais fait énormément d'interviews individuelles pour récupérer les analyses d'impact, les fameuses analyses d'impact qui n'existent pas beaucoup. Mais voilà. Et ça, c'est compliqué. Et au bout du bout, on s'est mis d'accord sur des scores. On avait même essayé d'aller plus loin, de faire un score net. Et on est revenu au score brut tel qu'il est demandé dans la double matérialité, avec l'histoire de c'est facile de remédier ou pas. Hein. Dans le calcul, on l'a bien intégré. Mais on avait essayé d'aller plus loin dans la mitigation et ça a donné lieu à beaucoup trop d'échanges. Donc on est revenu à un score brut tel que c'était demandé dans le calcul. Et on s'est mis d'accord sur un niveau de score. Parce que c'est pareil, qu'est-ce qui est matériel ou pas ? Donc on a déterminé une matérialité haute, médium et basse, et on s'est mis d'accord sur les points matérialité haute pour les emporter sur cette première salve de double matérialité. C'est des arbitrages, hein. Encore une fois, j'ai pas. Peut-être que chez vous, ça sera d'autres discussions et différents, hein, encore une fois. on a arbitré. À un moment donné, on s'est dit, et on a tout écrit hein, sur une méthodologie pour laisser toujours une trace. Ça, c'est important.
Merci. Bonjour, Karishma Van Marie, je suis responsable extra-financier chez Zadig et Voltaire. Donc nous, on sera soumise en 2025 à la CSRD. La question, pour, c'est plutôt une question liée à la méthodologie de la double matérialité, c'est que quand on fait un exercice de double matérialité, en prenant en compte les standards de reporting SRS, est-ce qu'on touche juste aux disclosure requirements ou on va aller jusqu'à la data point, en fait, pour avoir les avis ou juste les enjeux les 12, pardon, les enjeux ESG.
Je vais... Okay. Oui, je vais répondre et puis je vous laisserai compléter. Merci pour la question. Alors, quand on fait cet exercice-là, on va partir, en effet, plutôt des standards de reporting, donc les 10 standards que vous avez vus à l'écran, qui sont, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, ils sont divisés en... sous-thèmes, sous-sous-thèmes. Donc, on va plutôt partir de ces sous-thèmes et sous-sous-thèmes pour ensuite aller prioriser les enjeux. On ne va pas partir des 1000 data points ou plus de 1000 data points qu'il y a, sinon ça peut être un petit peu long. L'objectif, c'est surtout d'identifier en effet quelles vont être les grandes thématiques matérielles et ensuite, parmi ces grandes thématiques, d'aller identifier quels sont les sujets sur lesquels vous allez devoir y porter.
Juste un petit complément. Donc, nous... Orange, ils ont tout un process déjà avec les scoring, etc. Nous, on n'a pas du tout ça. Donc, du coup, comment on l'a pris en compte, enfin, déjà, dans un point de... Pour essayer de vulgariser le plus possible l'information, on ne parle pas trop de SRS, on essaye de ne pas trop utiliser les termes des normes explicitement. Des fois, on adapte un peu, on parle un peu des choses qui sont un peu plus proches de ce qu'on fait pour que l'exercice soit un peu plus simple. Et ensuite, on prend des arbitrages nous-mêmes. Donc, ce n'est pas forcément avec l'équipe projet non plus. Donc, c'est plus nous avec BL. Du coup, on se dit, bon, ça, ce groupe de data points-là, ça a un lien avec l'enjeu qu'on a défini qui est matériel, qui ne s'appelle pas exactement comme dans les textes, mais qui est l'enjeu, on le sait, qui se rapproche le plus. Donc, on va prendre ces data points-là. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a procédé pour le premier exercice. Après, je suis sûr qu'on va arriver à ce niveau de maturité-là, à travailler un peu plus spécifiquement sur chacun des enjeux.
Il faut que ce soit un exercice qui soit quand même approprié et adapté à votre structure, à votre activité. Il nous reste un petit peu de temps pour une dernière question.
Bonjour, Anne-Aurélie Duval, je suis responsable RSE pour un fonds d'investissement. On a des questions, nous, de la part de certaines de nos participations qui ont peut-être moins de moyens que d'autres. Forcément, vous deux, vous êtes fait accompagner par BL Evolution. Est-ce que l'exercice de la CSRD peut se faire avec un peu moins de moyens et un peu moins d'accompagnement? Est-ce qu'il y a des outils qui existent, des Excel ou autres, qui puissent vraiment aider certaines de nos participations à avancer sur ce sujet?
Il y a un Excel magique, j'aurais voulu l'avoir.
De manière indépendante, je pense que je connais un peu la réponse, mais quand même, je la pose. Merci.
Alors, je me suis beaucoup intéressé. C'est pas parce qu'on a des consultants qu'on leur laisse faire le travail de manière indépendante. Moi, je me suis planché sur les textes de fin 2022, du début de l'année, et là, les textes finaux aussi. Donc, c'est lire les textes. Déjà, ça aide beaucoup, en fait. Surtout la dernière version, la toute dernière version, la traduction qui était faite en français, elle est plutôt limpide. Donc c'est pas trop dur à comprendre, et quand tu lis le texte 2-3 fois, finalement tu comprends. Et la méthode, elle est plutôt expliquée en fait, de comment faire cette analyse de double matérialité, enfin, ou double importance du coup. Il faut juste pas se perdre avec les termes d'importance, parce que c'est pas une importance telle qu'on le comprend. Mais sinon, j'ai appris en conférence, il y avait le président de l'EFRAG tout à l'heure, ils sont en train de travailler en fait sur des... module un peu d'accompagnement justement des entreprises sur comment prendre, comment intégrer l'exercice de la CSRD. Donc ils ont sorti déjà un module sur la double matérialité.
D'accord.
Donc c'est sur le site de l'EFRAG, et le deuxième sur la chaîne de valeur, comment prendre en considération la chaîne de valeur dans l'exercice. Donc ça, ce sont deux ressources et ils continuent à travailler sur ça. Donc je pense qu'on peut s'appuyer sur eux le plus possible.
Merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup pour vos questions et votre participation aujourd'hui, et merci encore Carole et Carlos pour vos témoignages. On vous retrouve sur le stand 63 ou alors à notre prochaine conférence demain sur SBTI, SBTN, encore de nouveaux acronymes. Merci beaucoup. Merci.